RTL Info.
Le journal vous est présenté par Yann Esler.
Bonsoir. L'avenir du projet de prolongation du littorail à Neuchâtel est incertain. Le tronçon entre la place Purée et la Maladière ne fait pas partie des priorités de la Confédération dans son plan d'investissement ferroviaire 2030. Dans ce journal, l'avis du Conseil d'État neuchâtelois et de la ville de Neuchâtel. Le dossier de l'immeuble pollué de la rue du Doubs 51 à La Chaux-de-Fonds doit aller de l'avant. C'est ce qu'exige l'association ProDoubs 51 qui a organisé une manifestation cet après-midi. Le gouvernement espagnol poursuit la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne. Un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué pour ce samedi. Et demain, les nuages seront de retour avec quelques averses. Il y aura tout de même des éclaircies durant l'après-midi. Quel avenir pour le projet de prolongation du littorail à Neuchâtel? Le tronçon entre la place Purée et la Maladière ne fait pas partie des priorités de la Confédération. Berne a présenté fin septembre son plan d'investissement 2030-2035 pour les infrastructures ferroviaires, un plan intitulé PRODES. Et le projet de prolongation du littorail, qui est une des parties de la stratégie Neuchâtel Mobilité 2030, qui est devisé à 42 millions de francs, n'en fait pas partie. Il n'est pas menacé sur la durée, selon le chef du département neuchâtelois du développement territorial et de l'environnement, Laurent Favre.
Il faut savoir qu'on parle aujourd'hui du programme PRODES 2030-35, donc pour une première génération d'investissements ferroviaires par la Confédération dans les cantons. Il y aura d'autres générations de programmes, nous pensons à PRODES 2040. Pour nous, il était clair que nous n'arrivions pas à passer tous les projets neuchâtelois dans la première phase. Il faut savoir que les cantons ont globalement déposé pour 40 à 50 milliards de projets et il y a 11 milliards de francs à disposition dans le PRODES 2030. Dès lors, avec 720 millions de francs en l'état, le canton de Neuchâtel est globalement bien servi. Argent qui doit servir de manière prioritaire à la réalisation de la ligne directe. Je crois que pour toutes les régions du canton, c'est le projet prioritaire qui mérite encore d'être négocié pour optimiser les coûts et optimiser la participation financière de la Confédération à la hausse encore.
Du côté de la ville de Neuchâtel, on partage l'idée que la liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est la priorité principale pour laquelle il faut se battre. Mais la chef du dicaster de l'éducation, de la santé et de la mobilité considère tout de même qu'une échéance à 2040 pour concrétiser la prolongation du littorail est trop tardive. Christine Gaillard.
Pour moi, ce sera trop lointain. Je pense qu'il faut réagir plus rapidement, il faut identifier des plans B, voir avec quels partenaires travailler. Il y a d'autres moyens de solliciter des contributions de la Confédération. Il faut explorer toutes les pistes parce qu'on constate de plus en plus cette prolongation du littoral. C'est vraiment le projet qui nous importe en ville. Mais bien sûr, il y a différentes pistes. Il y a par exemple le financement via les projets aglo. On vient de déposer, c'est-à-dire 2016, les projets pour la troisième génération. Il y aura vraisemblablement une quatrième génération. On doit travailler avec tous les partenaires pour réunir les mesures, dont la prolongation littorale là-dedans. Mais c'est une discussion avec le canton à voir, avec les partenaires, comment on s'y met.
Un dossier réalisé par Marie-Lise Saillard. Vous retrouverez plus d'informations sur rtn.ch. La maison doit être assainie, c'est ce que demande ProDoubs 51 à La Chaux-de-Fonds. L'association a organisé une manifestation cet après-midi. La vingtaine de manifestants réclament que le site soit dépollué. En décembre 2011, des produits chimiques dangereux avaient été découverts au numéro 51 de la rue du Doubs, situé au cœur de la cité horlogère. Depuis, l'immeuble a été évacué, mais aucun travaux n'a été réalisé pour le désinfecter. Alors que font les autorités dans ce dossier? Question posée au président de l'association Doubs 51, Laurent Duvanel.
Nous avons eu quelques contacts, mais notre but n'est pas d'aller expliquer aux autorités. Elles connaissent le problème. Nous savons que les autorités roupillent un peu sur ce dossier. Nous remonterons sans cesse le réveil pour que disparaisse l'héritage toxique de l'horlogerie de grand-papa.
On voit que des affiches de tête de mort ont été posées sur ce bâtiment. Faut comprendre qu'il y a un danger pour les immeubles aux alentours.
Non, c'est le symbole de ce qu'il y a à l'intérieur de l'immeuble, où des produits toxiques par tonnes ont été découverts il y a justement 5 ans. Et il s'agit simplement maintenant de dire que l'intérieur de cette maison est gravement toxique. Et c'est une symbolique. Nous avons apposé ces têtes de mort afin d'éveiller l'intérêt de la population. On voit chaque voiture qui passe ralentit, le conducteur tourne la tête, l'objectif est atteint. Nous avons alerté la population.
Les voisins ont des inquiétudes à avoir?
Les voisins n'ont pas d'inquiétude à avoir. Les études ont été faites. La pollution est restée confinée dans la maison.
Laurent Duvanel au micro de Léonard Reichen. L'association indique que les locataires ont été exposés à des taux de mercure 4200 fois supérieurs aux limites tolérées. Un nouveau pôle santé est en train de voir le jour à La Chaux-de-Fonds. Le centre médico-chirurgical Volta prend forme dans deux anciens bâtiments industriels en cours de rénovation face à l'ancienne usine électrique. Ses responsables le veulent complémentaire à l'offre hospitalière cantonale. À terme, 7 entités se partageront le bâtiment en propriété par étage, dont 10 médecins de la ville qui y installeront leur cabinet et la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Le coût de ce chantier se monte à 14 millions de francs. Une partie du bâtiment devrait être opérationnelle d'ici janvier. La clinique de la Tour créée à La Chaux-de-Fonds en 1987 déménagera également dans une année dans ses locaux neufs et mieux adaptés aux exigences actuelles. On écoute Pascal Locatelli, directeur de la clinique de la Tour et du centre médico-chirurgical Volta.
Le développement de la Tour sera surtout au niveau qualitatif. Nous n'allons pas augmenter le nombre de lits ou de salles d'opération. Ce qu'on va augmenter, c'est la qualité d'accueil. Nos chambres, on va augmenter le flux des patients, on va faciliter leur accueil, on va aussi faciliter le travail de nos employés, de nos professionnels. Aujourd'hui, c'est absolument difficile de travailler à la Tour. On passe d'un étage à l'autre, d'un ascenseur à l'autre. Et puis, la clinique de la Tour va prendre une ampleur avec les autres entités qui vont se trouver autour d'elle, qui sont extrêmement importantes aussi. Et nous pourrons offrir à un patient un vrai réseau de soins. Le patient sera accueilli et sera dirigé dans les diverses structures pour son bien et en fonction de ses besoins.
Il ne faut pas confondre entre permanence médico-chirurgicale et urgence.
Nous sommes une permanence d'urgence, entre guillemets, debout. C'est-à-dire les patients peuvent venir sans rendez-vous chez nous et vont trouver des professionnels aptes à les accueillir. Par contre, nous n'allons pas recevoir de polytraumatisés, de patients souffrant d'AVC, d'infarctus. Nous n'avons pas les capacités pour répondre à ce type de soins. C'est nos collègues de l'hôpital qui pourront les accueillir.
Et vous pourrez retrouver une visite du chantier en cours demain matin dans la matinale. Une fête qui se déguste depuis 4 ans à Neuchâtel, Chocolatissimo est de retour du 4 au 12 novembre. Cette année, la manifestation dédiée au chocolat va osciller entre dégustation de douceur neuchâteloise et spectacle. Le public pourra notamment admirer une représentation d'une cantate de bar sur le café et un spectacle du slammer genevois Jonas. Pour cette quatrième édition, Chocolatissimo a utilisé un visuel assez particulier, soit un bodybuilder. L'explication de la déléguée au tourisme, Léna Brina.
C'est un visuel tout à fait détonnant. Donc, le visuel, on le confie toujours à un artiste neuchâtelois qui doit relever le défi de travailler sur un concept pour les trois emballages de nos plaques Chocolatissimo. Et donc voilà, c'est un photographe, c'est Benoît Janet qui a relevé le défi. Et donc il a photographié un bodybuilder sous différents angles. Alors on a le jeu de mots évident qui nous vient tout de suite à l'esprit entre les abdominaux et la tablette de chocolat. Mais voilà, c'était aussi une manière pour nous d'avoir une affiche un peu décalée et puis d'être un peu sur l'insolite.
Parce qu'une personne qui ne connaît pas forcément Chocolatissimo, elle verra l'affiche et elle se dit c'est peut-être un salon de fitness.
C'est possible, mais heureusement que c'est indiqué Chocolatissimo dessous, je vous l'accorde. Voilà, en fait, de nos jours, on est aussi tellement bombardés d'affiches, de visuels dans tous les sens, que pour nous, c'était aussi important de trouver une manière de sortir du lot. Et donc, elle va interroger et on espère que les gens vont s'approcher pour se rendre compte que ce n'est pas pour une salle de fitness.
Chocolatissimo se tient du 4 au 12 novembre à Neuchâtel. Et toujours sur le thème du chocolat, le chocolatier Camille Bloch a dévoilé aujourd'hui le nouveau visage de son site de courte. Ce vaste projet de développement baptisé Authenticité comprend un centre visiteur qui devrait accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs par an. Il ouvrira ses portes le 28 octobre. Une pelleteuse télécommandée est entrée en action dessus d'Unterscheren, dans le canton d'Uri, pour tenter de trouver les corps des deux ouvriers ensevelis dans un éboulement. Alors que les deux hommes sont portés disparus depuis 10 jours, la zone est toujours instable. Il revient à tout un chacun d'agir contre le harcèlement sexuel. Le scandale autour du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein provoque des réactions dans le monde entier depuis deux semaines, y compris en Suisse et dans la Berne fédérale. Les conseillers nationaux socialistes Mathias Reynard et Cédric Vermouth, âgés de 30 et 31 ans, lancent aujourd'hui un appel à l'action pour construire une autre Suisse. La lutte contre le mobbing et le harcèlement de rue font partie de leurs préoccupations, mais la responsabilité ne se limite pas au monde politique, selon Mathias Reynard.
Déjà, on a un rôle à prendre position, être solidaire, ne plus se taire, briser ses silences. Et c'est un rôle pour chaque personne, finalement, dans notre pays. L'appel que nous lançons, il est lié aussi à un espoir. C'est celui d'avoir notre génération qui peut changer ces choses-là, qui peut amener à une Suisse qui est plus égalitaire, qui est débarrassée de ce sexisme, de ce machisme, dans lequel on est nous-mêmes enfermés en tant qu'hommes, dans ces rôles, dans ces stéréotypes qui sont liées à une vision très machiste de la société.
Pour les deux élus, l'égalité salariale est nécessaire à la lutte contre le harcèlement sexuel, tout comme le congé paternité. On retrouve Mathias Reynard.
Dit comme ça, ça semble fou, mais bien sûr que le fait d'avoir ce genre de mesures plus égalitaires, ça amène à une société plus égalitaire, ça réduit ce sexisme et ça réduit tous ces risques de violence, en fait. Une société, quand elle est plus égalitaire, elle est moins violente. Alors, c'est toute une série de petites mesures de ce genre-là qui permettent de réduire cette violence fondée sur le sexe.
Le Conseil fédéral a néanmoins rejeté hier l'initiative populaire réclamant un congé paternité sans y opposer de contre-projet. Le Parlement devra se prononcer, puis le peuple suisse. Les anciens de Swissair à la caisse, le liquidateur de SR Group a signé un accord avec 22 anciens dirigeants de la compagnie aérienne faillie Swissair au titre du dommage entraîné par la stratégie dite du chasseur menée durant les années 90. Ces ex-responsables verseront 250 000 francs. Le gouvernement espagnol poursuit la procédure de suspension d'autonomie de la Catalogne. Il estime que le président catalan, Carles Puigdemont, n'a pas restauré l'ordre dans sa région, ce qui approfondit encore la crise entre Madrid et Barcelone. Un conseil des ministres extraordinaire a été convoqué pour samedi. Il se prononcera sur les mesures qui doivent être prises. Cette décision fait suite à l'expiration de l'ultimatum lancé au président catalan. Carles Puigdemont devrait dire avant 10h ce matin s'il avait oui ou non formellement proclamé l'indépendance de la région. Le dirigeant séparatiste n'a pas apporté de clarification souhaitée par le gouvernement espagnol. Notre correspondant à Madrid, Pierre Quérol.
Carles Puigdemont n'a répondu ni par oui ni par non, comme le lui demandait Mariano Rajoy. Cette fois cependant, il a lancé une véritable mise en garde au chef du gouvernement espagnol. Si vous persistez à empêcher le dialogue, écrit-il, le Parlement votera la déclaration d'indépendance. Au fond, c'est lui qui maintenant dicte ses conditions. On voit mal comment Rajoy pourrait éviter ce que l'on appelle ici l'arme nucléaire, c'est-à-dire l'article 155 de la Constitution, un texte qui prévoit de limiter l'autonomie de la région. Mais pour ne pas trop heurter l'orgueil des Catalans, le gouvernement de Madrid tente de trouver une façon modérée d'utiliser ce texte. Ce n'est pas facile, l'autonomie on la confère ou non, compliqué de la modérer. Des mesures sont envisagées comme par exemple déposer le gouvernement de Puigdemont ou le vider de ses attributions en nommant des techniciens. Le gouvernement espagnol, sans doute un peu naïf, ou plutôt très hésitant, par crainte des conséquences, le gouvernement espagnol espère encore que le numéro 1 catalan va changer d'avis et revenir à la légalité constitutionnelle.
Enfin, un touriste espagnol a été tué aujourd'hui par la chute du chapiteau d'une colonne dans la basilique Santa Croce de Florence. L'église est connue entre autres pour abriter les tombeaux de plusieurs Florentins célèbres comme Michel-Ange, Galilée ou encore Machiavel.
Vous écoutez RTN, il est 18h13.
Sport. En football, les supporters de l'équipe de Suisse se sont rués sur les billets pour le match de barrage aller contre l'Irlande du Nord. Les quelques 900 places réservées aux fans helvétiques ont toutes été vendues en 90 minutes. La troupe de Vladimir Petkovic pourra donc compter sur son public dans ce premier des deux matchs décisifs en vue d'une qualification pour la Coupe du Monde 2018. Pour rappel, la Nati joue à Belfast le jeudi 9 novembre, puis à Bâle le 12 novembre. Toujours en football, le FC Lugano est sous pression à l'aube de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa. Les Tessinois accueillent à Lucerne les Tchèques de Victoria Pilsen ce soir à 19h. Après deux défaites en deux matchs jusqu'ici, Lugano se doit de ne pas perdre une nouvelle fois pour garder un petit espoir de qualification. De son côté, Young Boys se rend à Kiev pour affronter le Dynamo. Les Ukrainiens sont leaders du classement alors que les Bernois sont deuxièmes avec deux points. Coup d'envoi du match à 21h05. Enfin, hockey sur glace, derby en deuxième ligue. Le HC Star Chaudefonds reçoit ce soir son voisin du Locle. Début du match à 20h30.
Voici les résultats du Quintet Plus qui s'est couru cet après-midi dans le prix du Port du Havre qui réunissait au total 16 partants. Il fallait jouer le 10, le 15, le 7, le 4 et l'As. Du côté du ciel, les belles conditions du jour vont se poursuivre cette nuit et pour la journée de demain. Le temps sera toujours ensoleillé malgré le passage de nuages de haute et moyenne altitude. Côté température, elles vont se maintenir autour des 20 degrés en plaine comme sur les hauteurs. Pour ce week-end samedi, temps encore globalement ensoleillé le matin, puis des nuages vont s'installer l'après-midi avec même quelques averses attendues en fin de journée avant l'arrivée d'une dégradation plus généralisée. Ça, c'est pour la soirée de samedi. samedi. Du coup, dimanche, le ciel sera changeant avec au programme des éclaircies et quelques averses plus fréquentes, notamment sur le relief. Les températures vont chuter, pas plus de 7 à 12 degrés en toute région.